Bonjour, mon cher Raphaël.
Bonjour, ma chère Marie-Claude.
Tu veux parler de peuple, de recensement, de à quoi ressemble le melting pot américain d'aujourd'hui?
Oui, parce qu'il est en transformation. Puis là, on a eu la meilleure indication de ça dans les dernières heures, alors que le Bureau du recensement a diffusé ces données pour le recensement décennal qu'on a eu, donc pour la décennie de 2010 à 2020. Beaucoup de faits saillants pour toi. Premièrement, le vieillissement de la population. Tu vas me dire que c'est pas un thème qui est unique aux États-Unis. C'est vrai de bien des sociétés occidentales. C'est très vrai aux États-Unis. Et constate ceci. En termes absolus, là, je parle pas de proportion, en termes absolus, il y a moins de jeunes de 18 ans et moins aujourd'hui aux États-Unis qu'il y en avait il y a 10 ans.
Okay.
C'est remarquable quand tu penses à ça.
C'est très parlant, oui.
C'est très parlant. Quand tu regardes la croissance de la population, elle s'est effectuée entièrement parce que la population adulte, elle a augmenté. La région la plus jeune des États-Unis, ça va peut-être être contre-intuitif pour bien des gens, le Sud. Pourquoi? En bonne partie à cause de la prochaine autre grosse découverte dont je veux te parler, c'est-à-dire l'explosion, puis je pense que le terme n'est pas exagéré, là, de la population hispanique. Ça aussi, c'est pas un mouvement, disons, qui est nouveau. Mm-hmm. Mais là, écoute, c'est remarquable. Tu prends un État comme le Texas, il y a maintenant autant d'hispaniques au Texas qu'il y a de blancs. Au cours de la dernière décennie, 10 dernières années, pour chaque résident blanc qui s'est ajouté au Texas, tu as eu, attache ta tuque, 11 résidents hispaniques qui sont ajoutés. En Californie, le plus peuplé des 50 États américains, il y a maintenant plus d'hispaniques qu'il y a de blancs. Regarde aussi l'urbanisation, le phénomène d'urbanisation. En 10 ans, il y a à peu près 3000 comtés, là, un petit peu l'équivalent des régions administratives, disons au Québec, là, à peu près 3000 comtés aux États-Unis. C'est à peu près la moitié qui ont perdu, encore une fois, en termes absolus, de la population. Ils ont moins de gens qu'ils en avaient il y a 10 ans.
Okay.
Pourquoi donc est-ce qu'il y a plus de population à la grandeur du pays? À cause des régions métropolitaines. 80% des régions métropolitaines qui ont gagné en population. T'en veux-tu d'autres comme ça? J'en veux d'autres pour toi.
Plein.
OK. Et ça aussi, je pense que ça va surprendre bien du monde. La ville majeure aux États-Unis qui a connu la plus forte croissance, c'est une ville du Sud.
Je sais.
Tu le sais,
ah,
vas-y
ben non,
donc. Impressionne-moi,
Marc-Claude. Ben non, moi, je pensais que celle qui avait eu la plus forte croissance depuis 10 ans, c'était Phoenix.
Ben, t'as absolument raison. C'est une ville du Sud. C'est du Sud-Ouest.
C'est pas le Sud, comme on l'entend souvent.
Mais donc, absolument, c'est Phoenix.
C'est vrai, l'Arizona, ben oui.
L'Arizona, c'est un état du Sud, même si c'est pas, encore une fois, le Sud qu'on associe au Sud traditionnel. Mais disons qu'il fait chaud. 12 mois par année, c'est ça ton baromètre.
Pas d'humidité.
Exact. C'est brûlant, ce temps-ci de l'année.
Je m'excuse de t'interrompre.
Vas-y.
Parce que moi, je connais des gens qui partent d'ici pour aller passer quelques mois en Arizona parce que c'est des gens qui ont des maux de dos, beaucoup de douleurs corporelles, puis ils vont là-bas parce que justement, l'absence d'humidité fait que leurs douleurs disparaissent. Alors, ça marche bien que ton vieillissement de la population, là?
Ben, c'est super pertinent. Écoute, ça me permet de faire un lien. Tu vas me dire que c'est plus humide en Floride qu'en Arizona, c'est vrai, mais tu sais quoi, la région métropolitaine, je parle pas d'une ville, une région métropolitaine qui a connu la plus forte croissance?
Non.
Ça s'appelle The Villages, c'est en Floride donc, c'est très chaud, et c'est la plus importante communauté de retraités à la grandeur des États-Unis. Donc, l'endroit où il y a eu la plus forte croissance, c'est l'endroit où il y a le plus de retraités essentiellement, donc cette région-là du centre de la Floride. Fait que c'est fascinant. Autre chose, la ville qui a la plus forte densité de la population, après New York évidemment, Jersey City,
New Jersey. J'aurais pas eu ça.
Ben écoute, il y a à peu près personne qui l'aurait eu, sauf qu'en même temps, je pense que ça va être logique pour bien du monde qui sont au fait que, encore à ce jour, New York et New Jersey sont les deux États qui ont eu le plus de mortalité per capita liée à la COVID-19. Donc, c'est peut-être pas un hasard quand tu considères la densité de la population. Donc, écoute, c'est beau une implication. En même temps, c'est très risqué d'y aller de prédictions, notamment de nature politique. Autrement dit, les changements démographiques d'aujourd'hui vont vouloir dire que dans 4 ou dans 8 ou dans 12 ans, on va avoir tel ou tel résultat électoraux. Les coalitions électorales changent constamment aux États-Unis. Et également, ceci que je vais te mentionner rapidement,
il
faut jamais perdre de vue la fluidité de ce qu'on considère comme étant des catégories raciales. Autrement dit, ce qui est blanc, ce qui est hispanique aujourd'hui, n'aura pas nécessairement la même définition dans 10 ou dans 20 ans. Pour la majeure partie du 20e siècle, les Américains qui étaient d'origine italienne, d'origine irlandaise, ils étaient vus comme des minorités ethniques. Aujourd'hui, comment on les voit? Des blancs, tout simplement.
Ils font partie de... C'est ça, effectivement. Écoute, il nous reste un petit peu moins de 3 minutes, mais pas loin. Une nouvelle sérieuse et une anecdote sur la vaccination.
Oui, la nouvelle sérieuse, j'ai pas eu le temps de te la mentionner hier, mais elle est grosse. La juge de la Cour suprême, Amy Coney Barrett, qui avait été nommée par Donald Trump, donc une juge plus conservatrice. Très jeune, qui avait voté notamment pour invalider des décrets sanitaires en Californie, là, liés à la COVID-19, a refusé d'octroyer une injonction à des étudiants de l'Université de l'Indiana qui s'opposaient à l'obligation vaccinale décrétée par l'université. Autrement dit, si une juge comme ça dit que l'obligation vaccinale peut rester, est sans doute là pour rester. Donc ça, c'est gros. Sur une note plus cocasse, écoute, c'est sorti plus tôt cet été, j'ai pas trouvé le temps de t'en parler, mais on sait qu'il y a plusieurs juridictions qui ont essayé plein de choses pour essayer de créer des incitatifs là, à la vaccination, campagne publicitaire, loterie, pêche, permis de pêche, bière gratuite dans certains cas. En Virginie-Occidentale, Marc-Claude, on a mis de l'avant un incitatif tout particulier, des armes à feu gratuites.
Oh, arrête-moi ça!
Et ce n'est pas une farce. Donc, si vous allez vous faire vacciner, vous courez la chance de gagner un gun. Et donc, je peux pas m'empêcher, Marc-Claude, de citer notre ami Paul Hood, qui m'a envoyé ça il y a quelques jours. 2 shots de Pfizer, 1 shot d'AK-47. Fait que, écoute, je trouvais ça bon de mentionner Paul, parce que ce sur quoi je veux vraiment te laisser, ça va boucler la boucle, là. On a eu bien des fins de chronique ensemble, mais là, celle-ci, tu le sais, elle est différente, parce que c'est pas juste la fin de la chronique d'aujourd'hui, c'est même pas juste la fin de la saison d'été, c'est la fin de la chronique, de ma chronique quotidienne à l'émission. Fait que oui, aujourd'hui, c'était ma dernière. Une fois que ça s'est dit, il y a au moins une minute que je vais prendre en remerciement parce que je suis loin d'être à plaindre. Au contraire, je n'ai que de la gratitude, Marc-Claude, parce que, écoute, j'ai été payé pendant plusieurs années pour faire quelque chose que j'ai adoré faire à tous les jours. Donc, premièrement, la direction de Cogeco, qui a eu, en bon français, les cojones de lancer là une chronique quotidienne sur l'actualité américaine quand je pense que c'était impensable pour une radio privée au Québec de le faire et de m'avoir fait confiance pour la piloter pendant les dernières années. De deux, toute l'équipe de gens avec lesquels j'ai eu la chance de travailler et que j'affectionne beaucoup. Ça inclut les metteurs en ondes Jean-Christophe Debye, Max Étienne, Larry Jean-Saut, les recherchistes, les deux, Alex, François, Catherine, Maud, Véronique, Fadois, Valérie, vous connaissez. Puis les animateurs, évidemment, donc Paul et Patrick Lagacé, qui ont été mes deux capitaines quotidiens à tour de rôle, qui m'ont beaucoup appris. Et plus personnellement, envers toi, Marc-Claude, c'est le 5e été qu'on est en onde ensemble. On a commencé avant même, en fait, que la chronique quotidienne commence en 2017.
Oui.
Puis, pour moi, ça a été un plaisir de tous les instants. Puis, finalement, je sais que je défonce mon temps, mais écoute, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ma dernière de toute façon. Fait que, je veux juste mentionner ceci. Un gros merci, et c'est très sincère envers les auditeurs qui sont, et c'est vrai pour moi, je pense que c'est vrai pour tout le monde à la station, la source quotidienne là, de motivation, sans lesquelles, en fait, il n'y aurait rien d'autre de possible en premier lieu. Fait que, bref, en espérant vous avoir fait passer au moins quelques minutes agréables à la fin de votre journée au courant des dernières années, je vous dis un très, très gros merci.
Et moi, je te dis un énorme merci à toi, Raphaël, puisque j'ai l'honneur d'être là pour ta dernière. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. J'aime ta façon d'être vif, d'aller en profondeur dans l'analyse en peu de temps, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et tes connaissances sont très impressionnantes. Et voilà, ben, je te dis un gros merci. Ça a été un bonheur d'échanger avec toi.
Ça me touche. C'est très, très réciproque.
Merci, Raphaël. Bye à bye. Bientôt. Bye-bye. On va s'arrêter pour une petite pause. Là, je suis un peu émue. Et puis, tout de suite après, on va parler sport avec Yannick Bouchard qui va nous parler de son menu à Amateurs de sport.